Il y a longtemps, bien longtemps de cela, vivait dans l'ouest de la Gaule, entre Loire et Sèvres, un peuple calme et laborieux, les Pictons. Parallèle à l'océan et coulant du sud au nord, une paisible rivière, la Boulogne. Dominant ses rives à mi-chemin de son cours, se dresse un fier château fort situé sur un rocher de 70 mètres de hauteur. Il commandait toute la vallée, groupée autour de cette forteresse, comme des poussins autour d'une mère poule, un village, peu à peu, s'était constitué afin de se défendre contre les bandes pillardes et invasions des Normands. C'était le village de Rocha Serviaria, ou Rocha Serviorum, dont le seigneur était en 1239 le baron Théobald de Chabot. Cette jolie rivière était source de prospérité pour de nombreux meuniers, tourneurs, rouisseurs de chanvre. De même, l'immense forêt qui venait mourir sur ses rives abritait toute une population de charbonniers, sabotiers, bûcherons qui amélioraient leurs maigres revenus par le braconnage, car la région était riche de gros gibiers tels que sangliers, chevreuils et cerfs, d'où son nom latin de Rocha Serviorum, qui devient à la suite la roche aux cerfs. Cette paisible rivière avait tout de même l'humeur capricieuse. Si l'été, son lit lui suffisait, dès que survenaient les pluies d'automne, elle prenait des désirs de vagabondage. Gonflée de centaines de petits ruisseaux, elle débordait, inondant les chaumières construites trop près de ses rives. Les pauvres gens, chassés de leur demeure, se savaient plus où se réfugier à la veille de l'hiver. Ils avaient bien demandé au seigneur Théobald de Chabot de les aider à construire une digue pour se protéger de ces inondations catastrophiques, peine perdue. Celui-ci faisait la sourde oreille, n'étant pas en danger là-haut sur son rocher. En désespoir de cause, ne sachant plus à quel saint se vouer, les inondés de la vallée allèrent demander assistance à une fée qui vivait en compagnie d'une nombreuse troupe de lutins dans la forêt voisine. La bonne fée, Bélésine, touchée par leur détresse, résolut de les aider. En ces temps lointains, existait une convention très répandue et respectée. Toute construction réalisée entre le coucher du soleil et le chant du coq ne pouvait être détruite. Prévoyante, la fée Belle choisit une nuit de pleine lune afin d'élever un barrage pour détourner la rivière en amont du village. À peine le disque du soleil eut-elle disparu derrière la forêt qu'elle donna le signal des travaux. Son armée de lutins se répandit dans la campagne, ramassant toutes les petites pierres qu'ils pouvaient trouver. Ils en remplissaient un petit sac de cuir que chacun portait au cou. Et alors, par un va-et-vient incessant, ils descendaient à la rivière et repartaient à la provision. Ils descendaient en courant, le vidaient à la rivière et repartaient un va-et-vient incessant. La fée Belle, de sa baguette magique, touchait chacun de ces petits cailloux qui se transformaient en d'énormes roches que les serviérois basculaient dans la rivière. Là-haut, dans son château, le baron Théobald se tournait et retournait dans son lit à baldaquin, ne pouvant trouver le sommeil. Agacé, il gourmandait ses serviteurs. « Hola, mes gens, tirez-moi donc ces rites tentures. Que diable, quels sont ces bruits qui trouble mon sommeil. Seigneur baron, ce doit être l'orage qui gronde au-dessus de la forêt. » Malgré toute l'ardeur des travailleurs, le barrage n'était pas terminé et déjà l'eau blanchissait. Les serviérois inquiets tendaient l'oreille, craignant d'entendre le chant du coq, la fée les rassura. « N'ayez crainte, le coq du château ne chantera pas ce matin. » Et alors elle leur conta le stratagème qu'elle avait employé pour ne pas être en prise de court. « Hier soir, j'ai fait tremper du froment dans du vin qu'un de mes lutins est allé distribuer à la basse-cour du château. Il faisait grand jour quand les serviteurs du château, affolés, réveillèrent leur maître. « Seigneur baron, levez-vous vite, les fosses de défense du château sont presque vides. » Au travers des vitraux de sa chambre, le baron Théobald put se rendre compte que la rivière s'était éloignée. Elle creusait un nouveau lit entre les villages du Puy-Velu, qu'on appelle Péplu actuellement, et celui de la Guigrie. Afin de rechercher la cause de cet étrange phénomène, il envoya ses valets en amont du village. Ceux-ci n'en crurent pas leurs yeux en découvrant que pendant la nuit, un amoncellement de roches avait obstrué le lit de la rivière, l'obligeant celle-ci à faire un brusque crochet. En apprenant la chose, le baron entra à une violente colère. Ne comprenant pas comment un tel travail ait pu se faire en une seule nuit. « Pourquoi m'avez-vous réveillé si tard ? Vous n'avez donc pas attendu le chant du coq ? Ce matin, pareille négligence mérite la corde, savez-vous. » Les malheureux serviteurs eurent la vie sauve en expliquant « Sire baron, le coq n'a pas chanté ce matin parce qu'il est bien malade et ses poules ne sont pas bien non plus. Toute la basse-cour dort à qui mieux mieux. » Mis devant le fait accompli, de mauvaise grâce, le baron Théobald de Chabot dut s'incliner. Et c'est depuis cette date de septembre 1237 que les habitants de la Roche-aux-Cerf ne subissent plus d'inondations. De vieux serviérois vous diront que certaines nuits de pleine lune, on entend en ces lieux ombragés une douce musique et des bruits de danse. Ce sont les lutins et farfadets sortis de la forêt qui viennent faire des rondes endiablées autour de leurs pierres. La pierre au lutin est devenue, au fil des années, un but de promenade apprécié de tous. Les jeunes amoureux s'y promènent deux par deux, échangeant des mots doux, enlacés, loin des regards indiscrets. Le bruit de leurs baisers est couvert par le chant des oiseaux. Les anciens, lentement, par petits groupes, à petits pas, y viennent égrener leurs souvenirs à petits mots. Espérons que la raison et la sagesse des hommes garderont en ce lieu légendaire le joli nom de Pierre aux Lutins. Que n'eût-on conservé au joli bourg de Roche-Servière, son nom primitif de Roche-aux-Cerfs tellement plus joli. Afin d'adoucir l'âpreté de la vie moderne, n'avons-nous pas besoin les uns ou les autres d'un peu de rêve et de poésie ?